J'enrage.
J'enrage, lilloise et féministe.
J'enrage, c'est moi et peut-être vous.
J'enrage est votre radio féministe lilloise sur les ondes et dans vos cœurs un dimanche par mois de 14 à 15 heures
sur RCV 99 FM.
J'enrage.
J'enrage, s'engage.
J'enrage, le courage en intraveineuse.
J'enrage, galaxie féministe, vous invite dans son no man's land.
J'enrage, la claque du dimanche après-midi.
Soyez là.
Bonjour, bonjour. Vous êtes bien donc sur J'enrage. On est dimanche 3 avril et on se retrouve sur les ondes de RCV 99FM pour une nouvelle émission de J'enrage. On fait suite aujourd'hui au premier volet de l'émission du mois dernier, donc l'émission du 6 mars qui était consacrée à la violence des femmes qu'on peut retrouver sur le blog de J'enrage. On reçoit aujourd'hui Hélène Dufulaire-Vial qui est membre du comité de l'exposition Mauvaise Fille dont on va parler aujourd'hui, qui est une exposition qui est à voir jusqu'au 24 avril à l'ENPJJ de Roubaix. Au programme cet après-midi, on vous propose trois axes à propos de la violence des femmes. Un rapide retour sur l'exposition Mauvaise Fille, avec Hélène. Une interrogation sur les regards médicaux, institutionnels et politiques et sociaux portés sur la violence des femmes. Et enfin, on va s'arrêter sur la violence symbolique que peut entraîner le traitement institutionnel de la violence féminine. Il nous manque quelques voix en plateau aujourd'hui, donc on pense très fort à Anaïs, Suze et Julia qui ne sont pas là. On est avec Diane, Mathilde et moi-même Anaëlle et avec Hélène pour discuter pendant une heure de toutes ces super questions. Alors pour entrer dans le vif du sujet tout de suite, Hélène, est-ce que tu peux revenir ou nous expliquer rapidement par qui et comment a été conçue l'exposition donc à l'ENPJJ?
Alors l'exposition a été conçue par Véronique Blanchard. Véronique Blanchard qui est responsable du centre d'exposition historique de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse à Savigny-sur-Orge. Et Véronique Blanchard a eu un parcours très particulier. Elle est à la base éducatrice spécialisée et elle est devenue ensuite historienne. Et c'est quelqu'un qui connaît énormément d'universitaires, qui a un relationnel excellent avec toutes les personnes en général avec qui elle travaille. Du coup, elle arrive à fédérer les gens autour d'elle. Et là, pour l'exposition Mauvaise Fille, elle a réuni un ensemble d'universitaires, de sociologues, d'historiens, de politistes autour de ce thème et elle a également réuni des retraités de l'ENPJJ, des retraités, des anciens éducateurs spé passionnés d'histoire et avec ce comité donc, qui est constitué d'une quinzaine de personnes, elle a monté l'exposition Mauvaise Fille. Voilà.
Et donc toi, est-ce que tu pourrais aussi Hélène te présenter et nous expliquer comment tu as été amenée à travailler sur l'exposition ?
Alors moi je suis une universitaire également, je suis historienne du droit, j'ai rejoint le comité d'exposition, pas au départ, mais après une ou deux réunions de travail, parce que Régis Révenin connaissait un peu mon travail et qu'il avait parlé de moi du coup dans l'exposition, aux personnes qui travaillaient sur ce thème et donc voilà, nous avons ensuite eu des réunions à peu près tous les mois pour penser l'expo, monter l'expo, confronter les points de vue et ça a duré à peu près ça a duré à peu près 18 mois ce montage de l'exposition.
Ok. Et donc pour, je vais peut-être te l'expliquer ou toi tu peux peut-être développer Hélène, mais en gros c'est une exposition où il y a surtout des panneaux avec des portraits en fait de mauvaises filles justement. Donc on retrouve souvent un prénom de fille et un adjectif. Donc il y a l'incendiaire, la crapuleuse, la vagabonde, une série comme ça d'adjectifs. Et il y a souvent aussi, pas toujours, on va en reparler, je pense, une approche diachronique avec deux dates qui expliquent deux traitements de la violence des femmes différents ou pas, d'ailleurs, selon les époques. Est-ce que ouais, tu pourrais peut-être nous parler de cette approche diachronique et de la manière aussi dont ont été conçus les portraits, c'est-à-dire est-ce que ce sont des sortes de fictions en fait, qui ont été appuyées sur des témoignages, des comptes rendus de procès ou ce genre de choses? Est-ce que c'est des vraies personnes qui sont basées, et donc les portraits sont basés sur un seul témoignage d'une seule personne? Beaucoup de questions.
Oui, alors oui, c'est vrai que du coup, j'ai pas expliqué concrètement comment on avait réalisé cette exposition. Donc effectivement, je vais essayer de reprendre toutes les questions. Le thème mauvaise fille, l'idée, ça a été donc de réfléchir effectivement à la manière dont les institutions et surtout la société posaient un regard sur les jeunes mineurs et quelles étaient les attentes de la société auprès des jeunes mineurs et puis comment justement la société et les institutions envisageaient et appréhendaient la manière, les jeunes filles plutôt, qui ne respectaient pas les codes qu'on essayait de leur imposer. Mmh. Et de grands débats passionnés sont nés autour de ce thème. Et l'idée, c'est quand même de créer un outil qui soit un outil pédagogique. Donc la forme de l'exposition a été pensée pour être pédagogique. Et l'idée d'un jeu a très vite émergé. Donc on a construit l'exposition autour du jeu de loi, le jeu de loi blanche. Loi blanche parce que, notion du 19e, pureté, virginité, bonne fille. Et loi blanche qui mène son petit chemin, donc le jeu de loi en fait, et qui risque de tomber dans des embûches. Et là, les embûches sont tout ce que la société estime comme les risques que la jeune fille devienne une mauvaise fille. Donc l'idée de penser la mauvaise fille, c'est aussi bien sûr penser la bonne fille, celle qui a le bon comportement socialement admis. On a aussi réfléchi, donc notre jeu de loi, on l'a situé dans un endroit, on a décidé de le situer dans une fête foraine, parce que la fête foraine, au 19e, au début du 20e et même encore aujourd'hui, c'est le lieu où il peut se passer des choses. Donc lieu de perdition au 19e siècle, lieu où il peut encore se passer des choses aujourd'hui. Et du coup, ça nous renvoie comme ça à tout un imaginaire de ce que peuvent être les risques pour la jeune fille. Les cases du jeu de loi, les pièges du jeu de loi nous amènent du coup dans l'exposition de vers les différents stands de la fête foraine. Et donc on a traité un ensemble de thèmes, effectivement l'errance, donc la jeune fille vagabonde, les addictions, la sexualité bien sûr, hein. De toute façon la sexualité, je crois que c'est un thème sur lequel on tourne en boucle, parce qu'en réalité l'enjeu même de la bonne et de la mauvaise fille se situe autour de la sexualité. Et tout un ensemble de la question de la maternité aussi, qui peut être la maternité, la bonne maternité, hein, parce que le rôle de la jeune fille, c'est de devenir une future mère, mais dans le bon cadre, donc dans le cadre du mariage. Tout ce qui sort du cadre du mariage ou actuellement du concubinage, mais enfin du mariage une maternité mauvaise entre guillemets, et donc voilà. Donc la maternité, c'est une case bonne et mauvaise sur le plateau du jeu de loi. Donc sur les portraits, donc la question revenait, oui, sur les portraits. Donc concrètement, le comité d'exposition s'est scindé, et donc on a constitué des groupes en fonction de nos thèmes de recherche ou de nos thèmes de prédilection, parce que je répète, ce ne sont pas seulement des universitaires qui ont travaillé sur ce sujet. Et donc par groupe, nous avons réfléchi chacun à un thème, enfin chaque groupe a un thème, et en fonction des envies du groupe, ont été créés des portraits fictifs ou basés sur des personnages réels, et qui reprenaient un chemin, un mauvais chemin qu'aurait pu suivre une mauvaise fille entre guillemets. Et donc pour prendre un exemple, on va parler lorsqu'on va aborder la question de la rébellion, on va parler de, enfin un des portraits s'intéresse à Casque d'or, Casque d'or est un personnage réel. À l'inverse, le portrait de la vagabonde qui est présenté est un personnage fictif, même si bien évidemment les faits qui sont présentés sont extraits des archives sur lesquelles les chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, je pense notamment là sur le vagabondage, c'était Jean-Jacques Ivorel. Bon, Jean-Jacques Ivorel a constitué une base d'archives énorme sur le sujet, donc il a pioché bien sûr les anecdotes dans ses archives. Voilà, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions.
Oui, tout à fait. Mais juste pour revenir un peu sur l'approche justement diachronique, le fait qu'il y ait deux époques, toi en plus en tant qu'historienne, j'imagine que c'est quelque chose qui t'a questionné. Mais j'ai l'impression que l'idée c'est aussi d'aller à l'encontre d'un cliché qui veut que la violence des femmes, qu'il y ait de plus en plus de femmes violentes dans la société, et aussi que le traitement de la violence des femmes il est énormément changé. Est-ce que ça va à l'encontre de ces a priori là?
Alors, il n'y a pas seulement, enfin, c'est pas deux dates. En fait, on a trois personnages dans l'exposition. C'est vrai, j'aurais dû en parler également. On a un personnage du 19e siècle, donc parce que les pions du jeu, en fait, c'est une jeune fille du 19e siècle, une jeune fille après la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 50-60, et ensuite une jeune fille contemporaine. Et donc, à travers ces trois personnages, on questionne effectivement la perspective diachronique, effectivement, l'idée qu'il y a dans les représentations de ce qu'est une bonne ou une mauvaise fille, il y a des constantes et il y a certains changements. Je pense notamment à la tenue vestimentaire. À un moment, on aborde le thème de la frivolité. Donc là, on va faire l'étude de la bonne tenue à avoir en société pour une jeune fille. Et ça, on peut voir que ça évolue. Mais le poids reste le même, mais ça évolue dans la forme. Par contre, et de même qu'on va à l'encontre de certaines idées reçues, parce qu'effectivement, il y a des idées reçues comme quoi la sexualité des femmes était très contrôlée par le passé, qu'elle serait très libre actuellement. Mmh. Quand on creuse la question, on se rend compte que c'est absolument pas le cas. Mmh. Donc voilà, la perspective, effectivement, la perspective diachronique nous permet de montrer que c'est à la fois évolutif et contextuel, mais qu'il y a quand même des constantes dans la place que doit avoir la femme dans la société.
Ouais. Moi, je voudrais revenir sur le lieu. Donc, le NPJJ, c'est l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Pardon. Et je voudrais te demander, Hélène, pourquoi l'expo a lieu dans ce lieu-là, si ça a une signification particulière ou s'il y a une explication à ce lieu.
Ah ben, en fait, une explication très concrète et technique. Il se trouve que Véronique Blanchard est responsable du centre d'exposition historique, de l'école de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc elle est chercheure au sein de cette institution, et le NPJJ a un groupe de chercheurs. Je crois qu'il s'appelle concrètement des formateurs chercheurs. Donc, qui sont des enseignants-chercheurs, mais rattachés au ministère de la Justice et non pas au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, et qui travaillent donc en lien avec l'École nationale de la PJJ. Effectivement, leur thème de recherche tourne autour de la déviance, de la délinquance des mineurs. Je connais pas le fonctionnement interne, donc je pourrais pas en parler je suis complètement extérieure, mais de ce que j'en ai vu et de ce que je connais de ces chercheurs, ils travaillent en toute indépendance.
D'accord.
Après, je ne sais pas quel est le poids administratif et quelles sont les contraintes qui pèsent sur eux pour répondre à la demande politique. Mais moi, de ce que j'ai pu voir en tout cas, et surtout de ce que j'ai pu lire du travail de ces chercheurs, je répète, je pense à Véronique, mais je pense aussi à Jean-Jacques Ivorel, à Dominique Youf, Nadia Bétiard. Ce sont des chercheurs qui travaillent, qui sont clairement indépendants.
D'accord.
Et sinon, tu nous expliquais aussi en amont de l'émission que tu organisais des visites de l'exposition avec des groupes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des réactions en fait que tu constates, des apprentis éducateurs par exemple qui viennent visiter l'exposition, ou d'autres types de publics, justement aussi par rapport à la perspective féministe aussi que vous avez engagée dans l'exposition? Est-ce que les personnes sont surprises de cette thématique? comment ils réagissent?
Alors moi, je suis là encore très nouvelle, hein, parce que je m'occupe effectivement des visites, mais à Roubaix. Donc là, l'exposition, elle est depuis le 8 mars à Roubaix. Avant, elle était à Savigny-sur-Orge. Donc l'essentiel des visites a été fait par Véronique Blanchard et ses collègues du Centre d'exposition historique. Et donc moi, finalement, j'ai un retour assez récent, en fait. J'ai un contact assez récent avec les visiteurs de l'exposition. Et je pense que j'ai aussi un retour un peu différent, parce que moi, le public, c'est principalement des éducateurs PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. Véronique, par contre, elle a eu tout type de public, des éducateurs SP en formation, bien sûr, mais également des scolaires, des universitaires. Voilà. Et ce qui l'a marqué sur cette exposition, en comparaison d'autres expositions qu'elle avait pu faire par le passé, c'est les réactions des visiteurs sur des éléments, des choses qui nous paraissent à nous, dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre des gens qu'on peut fréquenter, enfin, ce qui relève pour nous d'évidence liée au statut de la femme, enfin, la place de la femme dans la société, etc. Ou les choses sur lesquelles on s'indigne parce que pour nous c'est évident, bien, certains visiteurs ont eu des réactions qui nous ont interpellés, voire parfois choqués autour des thèmes abordés par l'exposition. Par exemple, l'avortement, on a eu des réactions très, très violentes sur l'avortement. Sur l'homosexualité, sur les tenues vestimentaires, des réactions de visiteurs très choquées, enfin très, très choquantes plutôt, sur ce que devaient être les tenues vestimentaires des femmes, des femmes elles-mêmes d'ailleurs. Mais voilà, donc effectivement.
Ça vient vraiment de tout public, du coup, autant les scolaires que justement les éducateurs, ce type de réaction.
Alors, les éducateurs...
Vas-y, Hélène.
Donc, d'après ce que j'ai compris de ce que m'ont raconté Véronique et le personnel du comité, du Centre d'exposition historique, les réactions étaient particulièrement spectaculaires de la part des jeunes, des plus jeunes. Mais peut-être que c'était moins spectaculaire, mais d'autant plus choquant quand ça venait de publics plus âgés et surtout d'éducateurs, effectivement, en formation pour devenir éducateur spécialisé en protection judiciaire de la jeunesse. Notamment, bah, effectivement, moi, j'ai une réaction très, très surprenante sur l'avortement, très surprenante sur l'homosexualité. Bon, voilà, je me dis que c'est... Après, ce sont des gens qui sont en formation, donc justement, il faut espérer, et c'est l'enjeu aussi de cette exposition, que ça va permettre de remettre en question certains préjugés et leur permettre justement au cours de cette formation et grâce à cet outil pédagogique, bon, peut-être que je suis très 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 positive, mais enfin peut-être au moins semer des graines de début de réflexion pour leur permettre de laisser un peu leurs préjugés de côté et puis d'avoir une autre approche vis-à-vis des jeunes filles qu'ils vont être amenés à côtoyer. Mais si je peux me permettre, justement, sur les éducateurs SPÉ en formation à la PJJ, l'enjeu est d'autant plus important qu'ils m'ont expliqué, et ça je ne le savais pas du tout, mais ils m'ont expliqué qu'au-delà de tout ce qu'on peut nous constater sur les statistiques en termes de délinquance des mineurs, filles, garçons, et sur lesquels on écrit, on a des... au sein de la PJJ, enfin de la protection judiciaire de la jeunesse, les centres de placement, donc hors le cadre du code pénal, hors du cadre des procédures judiciaires classiques, qui se disent mixtes, sont en général non mixtes, c'est-à-dire réservés à des garçons. Il y a très peu de place pour les jeunes filles, en fait, dans les centres, contrairement à ce qui est affiché, parce qu'ils sont dits mixtes. Et eux me disaient, et là c'était du concret, qu'ils avaient très peu à faire en fait à des filles parce qu'il y avait une grande réticence à les placer. Et les quelques filles qu'ils étaient amenés à côtoyer étaient des filles qui du coup étaient par rapport aux garçons dans des situations de danger ou de dangerosité pour elle-même ou pour les autres, bien plus forte que les garçons, en fait, parce qu'il y avait un refus de l'institution d'appréhender, en fait, la violence des jeunes filles. Et c'est vraiment, quand on en arrive à un point extrême, que les procédures qui sont mises en place pour les garçons bien plus tôt sont mises en place pour les filles.
Et ça, voilà, ça, je ne le savais pas, parce que je travaille sur les statistiques pénales, ouais. Mais l'infrapénale, je ne le connaissais pas. Quoi.
D'accord, et du coup, tu analyses ça, en fait, comme une manière de nier la violence des femmes.
Oui, elle veut... D'accord. Oh, clairement. Ouais. Ouais. Bah, ça conforte ce qu'on peut voir dans... et étudier, et ce qui est révélé par les statistiques pénales. Mais effectivement, oui, il y a une volonté d'invisibiliser la violence des femmes. Quelque chose qui perturbe l'ordre social bien plus profondément que lorsqu'il s'agit de la violence des garçons.
Et justement, sur la perturbation de l'ordre social, les réactions choquantes que tu as eues des visiteurs, c'est parce qu'ils voyaient l'expo comme étant subversive, par exemple, ou parce que l'exposition, enfin, c'est une question que je te pose, du coup, il y a deux questions en une, mais elle a plutôt... une visée de constat ou de rendre compte de ce qui se passe réellement et pas forcément de valorisation des mauvaises filles ou une pensée subversive de la normalité de ce que doit être une bonne fille ou une mauvaise fille. Et du coup, ils voyaient l'expo plutôt comme étant subversive ou vraiment ils étaient choqués et ils avaient des propos qui étaient plutôt, eux, pour le coup, normatifs.
Alors, je pense que sur le coup, ils ne se sont pas dit c'est une exposition subversive. Peut-être que dans un second temps, ils se diront que c'est une exposition subversive. Mais je ne crois pas que... Non, leur réaction spontanée, ça a été effectivement, je pense, tout simplement un discours normatif, totalement intériorisé et choquant, justement, parce que nos évidences n'étaient pas du tout les mêmes que leurs évidences. Et leurs évidences leur paraissaient tellement... naturel et spontané que voilà, enfin c'était, mais effectivement dans un second temps j'imagine que certains des visiteurs sont ressortis de là en disant mais quelle horrible exposition féministe. Voilà, très certainement, mais
je vous propose qu'on fasse une petite coupure musicale avant de poursuivre cette discussion. On vous passe Billy the Kick, Fox à saigne, tiré de l'album Paniac, sorti en 1996. À tout de suite.
Thank you.
Nous sommes de retour sur Genrage. On m'entend ? Oui. Donc sur RCV 99FM. Pourquoi vous rigolez ? Non, c'est pas grave. J'aime bien parler de... Ah oui, vous entendez maintenant. Oui, pardon, parce qu'en fait, vous voyez pas, vous êtes pas en studio, vous qui nous écoutez, mais on a eu un petit souci de casque, de retour casque, enfin voilà. D'où la rigolade, parce que maintenant tout le monde s'entend dans les casques et ça fait drôle. Donc on est toujours avec Hélène Dufuller Vial, pardon. Je vais arrêter de bégayer. Sur le deuxième volet de la violence des femmes. Juste avant qu'on entame le deuxième axe de cette émission, revenir sur un point de définition très 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 rapide, parce qu'on parle de déviance et de délinquance. C'est des mots qui sont revenus plusieurs fois dans la conversation, et juste pour qu'on soit tous d'accord de comment on emploie les termes. Donc déviance, c'est ce qui touche au pénal, les filles vous me corrigez si je me trompe, et donc délinquance, c'est ce qui touche au pénal, et déviance qui touche à la norme sociale, pour le dire rapidement. Donc délinquant, c'est vraiment ce qui est, c'est vraiment judiciaire, c'est vraiment ce qui est réprimandé au niveau institutionnel du terme. Voilà. Donc ce deuxième axe consacré justement au regard social, institutionnel et ou politique et médical porté sur la violence des femmes. Et tu l'as évoqué, c'est une transition magnifique, tu l'as évoqué à un moment dans la première partie sur le fait que on nie la violence féminine. Et quand on l'accepte ou quand enfin les filles sont prises dans le système judiciaire, c'est qu'elles sont à un stade de violence beaucoup plus avancé que les garçons. Je voudrais juste revenir sur ce que... Est-ce que ces filles-là, une fois qu'elles sont dans le système judiciaire, elles sont jugées comme les garçons, si tu le sais, ou si tu peux en parler ou pas. Et sinon, quelles sont les différences de traitement qui peuvent être faites entre le traitement pénal ou infrapénal des filles et des garçons ?
Alors, sur ce que j'ai raconté tout à l'heure, hein, c'était le vécu des éducateurs SPMPJJ. Les mécanismes qui invisibilisent la violence des femmes, ils sont multiples, hyper complexes. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas que l'idée d'une prise en charge sur une violence ultime. Hein, il y a plein de mécanismes qui se jouent. Mais si on parle juste de statistiques, par exemple, sur les violences, enfin, sur l'appréhension pénale de la violence des femmes, ou en tout cas de la délinquance des femmes, on a un ratio qui est de 85% de poursuites pour des hommes, pour 15% de poursuites de femmes. Après, devant le juge, on se retrouve sur un ratio de 90% d'hommes, 10% de femmes. Et en termes au terme du prononcé de la peine, on est sur du 98% d'hommes, 2% de femmes. Donc on est sur...
Les écarts sont hallucinants.
Par contre, là où c'est intéressant, c'est le fait que, par contre, quand on se retrouve face à une violence de femme, on va très rapidement avoir tendance à la qualifier d'un point de vue médical, à la faire basculer dans le domaine de la folie. L'homme violent, bah, c'est un homme au comportement viril exacerbé qu'il faut recadrer. La femme violente, elle est folle. On va très, très vite tomber dans ce discours-là, d'où tout le discours sur l'hystérie, au 19e siècle. Et encore aujourd'hui, on tombe vite dans le domaine médical quand on se trouve face à de la violence des femmes. Mais quand je fais visiter l'exposition et quand je parle de ces différents pourcentages, je pose la question aux visiteurs. Je leur dis, mais vous pensez que les femmes sont moins violentes que les hommes parce qu'elles sont... naturellement, entre plus douces, plus gentilles, etc., ou vous pensez qu'on porte un autre regard sur la violence des femmes. Et voilà, je pars de ces statistiques et de cette question-là pour déborder sur les autres... pour aborder les autres thèmes.
Et du coup, en les médicalisant, enfin, en les faisant passer pour folles, est-ce que on les déresponsabilise ou est-ce que la société se décharge en quelque sorte d'une éducation différenciée qui aurait été mal intériorisée ou une éducation qui passe pour naturelle et qui en fait est construite et qui parfois se passe pas bien.
Bah, je pense que c'est un ensemble, c'est l'ensemble de ces phénomènes-là. Effectivement, on est sur pourquoi la violence des femmes. Effectivement, ça peut être une forme de. D'ailleurs, cette rébellion, enfin cette violence féminine peut ne pas mal se terminer. Et c'est ce qu'on essaye aussi de montrer dans l'exposition. Hein. L'enjeu, enfin la fin du jeu se termine soit dans la clôture, l'enfermement, la prise en charge par les institutions, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit l'asile psy ou les centres de rétention, mais c'est aussi les centres d'enfermement, pardon, lapsus, mais c'est aussi ça peut être aussi un accès à la liberté, c'est ce qu'on essaie de montrer. Il y a certaines femmes qui, en s'émancipant des codes, gagnent leur liberté. C'est pas, certaines jeunes filles qui d'un carcan éducatif trop lourd, l'issue de la violence entre guillemets féminine, des jeunes filles n'est pas. On essaye de montrer que c'était pas qu'une issue. Ça peut ne pas être qu'une issue négative dans le parcours d'un individu. Et pour répondre à votre question sur la déresponsabilisation, oui, clairement, on a construit la déresponsabilisation. Alors, on a construit l'idée d'une violence féminine qui bascule très vite dans le domaine médical, d'une violence féminine on construit un discours comme quoi elle serait hyper rare. Moi, dans le cadre de mon travail de recherche, j'avais pu étudier qu'actuellement, beaucoup de femmes étaient considérées davantage comme complices que comme auteurs des faits. Donc ça, c'est une manière aussi de dire que quand on se retrouve face à deux personnes, un homme et une femme qui commettent un délit, bah, l'homme serait plus responsable et la femme suivrait l'homme, en fait, donc elle serait complice. Il y a ce mécanisme-là. Mais étrangement, on trouve une approche complètement inverse sur toutes les questions de la sexualité. Je pense notamment à la prostitution, au proxénétisme. Alors, pas aujourd'hui, mais moi, à l'époque que j'étudie, clairement, on est sur l'idée d'une femme, sur les questions de la sexualité, de l'offre sexuelle, qui serait nécessairement beaucoup plus responsable que l'homme. Enfin, bref, des mécanismes qui sont en plus complètement détachés des faits, parce que quand on va regarder après les faits dans les dossiers de procédure, on se rend compte que là où une femme, elle est présentée comme complice, ou à l'inverse, sur les infractions sexuelles, un homme présenté par complice, les faits ne laissent pas présager ça. Donc c'est vraiment le traitement et le regard policier et ensuite du juge qui va appréhender les personnes de manière différenciée en fonction de leur sexe.
Mmh. On change vraiment, ça change presque les faits du coup. Enfin, en tout cas, le regard porté est plus important que les faits observés. Parce qu'une femme... une femme active, en plus ça rejoint vraiment les discours qu'on entend, la femme perçue comme complice, elle est de toute façon passive, elle suit l'homme et donc elle n'est pas totalement maîtresse de ses actes, etc. Et c'est ce regard-là, il ne faut surtout pas sortir de ces carcans-là, de ces codes-là, quoi. Même en judiciaire ou par les flics, il faut... C'est ce regard-là qui va primer sur les faits qui vont être observés.
Oui. mais de toute façon, on peut l'observer sur des tas de phénomènes, quoi. Quand on parle, par exemple, de l'explosion des viols, non, il n'y a pas une explosion des viols. Il y a toujours eu des viols, mais le regard porté sur le viol est différent. Reste encore un tabou énorme dans notre société, c'est quand même le viol des hommes, en fait, qui reste très difficile. Pour un homme, aller devant un policier ou devant un juge pour expliquer qu'il s'est fait violer, ça vient questionner les rapports sociaux de sexe et effectivement au-delà des faits, il y a bien entendu le regard que porte l'institution policière, l'institution judiciaire, qui en réalité ne sont que des vecteurs de représentation de la société, mais dont les conséquences sont figent une réalité qui est une réalité distendue qui relève des représentations. Mais là, ça nous amène directement à tout ce qui est question, et travail sur le genre.
Ouais. Les filles, d'autres questions
Non, non, pas particulièrement. C'est vrai qu'après, il y a des portraits de jeunes filles dans l'exposition, je trouve, qui sont assez symptomatiques de ce que tu racontes, Hélène. Quoi. C'est vrai que je pense au personnage d'Eugénie l'incendiaire. On parle de tare héréditaire, on dit que c'est une dégénérée héréditaire. Et elle est, le verdict du jugement, c'est qu'elle est acquittée comme ayant agi sans discernement. C'est pas la seule, d'ailleurs, dans l'exposition, il y a plusieurs cas comme ça.
C'est le portrait d'une personne, du coup, contemporaine ou c'est
quand même... Alors, Eugénie l'incendiaire, il y a une première date, c'est 1845, et une autre, d'accord, 1897. Donc du coup, ouais, c'est plutôt, là, en l'occurrence, 19e. Mais il y a plusieurs cas comme ça, ouais, de personnages féminins du 19e qui sont acquittés pour avoir agi sans discernement. Donc je pense que ça illustre pas mal ce que tu racontais.
Oui, alors le problème d'agir sans discernement, et ça c'est vrai pour les filles et pour les garçons hein, mineurs, c'est que, bon, surtout là, dans ces époques-là, ce qui se passait, du coup, c'est que le fait de dire qu'ils avaient agi sans discernement... Bon, je ne vais pas parler de l'incendie, mais parlons du vol. Si la personne a agi sans discernement, si on avait dit au contraire que le mineur avait agi avec discernement, la peine, par exemple, de prison aurait été de quelques mois. Le fait de dire que la personne a agi, enfin que le mineur a agi sans discernement, ça lui fait échapper à la répression pénale, mais par contre, ça l'envoie directement dans les centres, dans la prise en charge par des mesures d'assistance éducative, la prise en charge par les institutions de protection des mineurs qui peuvent les amener parfois à des enfermements très longs. Donc pour un vol, si le mineur avait agi avec discernement, il aurait peut-être passé 2 mois en prison. Et imaginons qu'il a commis ça à 14 ans, la majorité pénale, la majorité nous l'amène à 21 ans, bah, du coup il va se retrouver de 14 à 21 ans en institution. Donc bon, agir avec ou sans discernement, l'enjeu derrière il est... l'enjeu derrière il est énorme et les conséquences sont énormes et justement c'est pas, enfin ça peut passer pour des, du coup un discours de déresponsabilisation et ça l'est, mais les conséquences en termes de prise en charge sont terribles quoi.
Pour revenir sur ce que tu disais quand tu présentais l'exposition et quand tu parlais d'image de la bonne ou de la mauvaise mère. Il y a une question, alors on ne pourra pas la traiter, enfin c'est assez long, mais la question de l'infanticide, c'est du coup une question qui est ultra sensible, parce que comment on juge les femmes victimes d'infanticide, ça renvoie à plusieurs normes sociales j'ai perdu mon mot. Enfin bref, donc ça renvoie à plusieurs choses qui volent en éclats, des normes sociales qu'on transgresse, qui sont hyper importantes parce que la femme sert à être mère, pour le faire rapidement, et donc l'image de la femme infanticide, au niveau des responsabilisations ou médicalisation aussi, ça pose aussi d'autres questions.
Pour le coup, la femme infanticide du 19e en lecture et rétrospective, effectivement, elle nous... L'infanticide semble être une évidence vu le poids social, vu le poids social qui pèse sur la fille mère. Une fille mère est socialement morte en fait, donc sa salvation sociale passe presque par l'infanticide ou par l'abandon quoi. Donc l'infanticide c'est une question pour le coup avec une perspective diachronique absolument passionnante à étudier parce qu'elle montre le poids social terrible qui pose sur la femme. Et mais les juges, pour le coup, on peut le voir à certaines périodes, hein, on fait preuve quand même d'une... Je pense à certains moments, dans des époques plus anciennes, hein, au 18e notamment, où on fait preuve d'une certaine clémence hein, face aux femmes infanticides, justement parce que je pense que ce poids social était tellement fort, l'honneur des familles était tellement forte que limite ça parlait à tout le monde, ce choix de la femme. L'infanticide choque aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui choque nos sociétés terriblement. La place, parce que ça questionne la place de la femme, le regard porté sur la mère, mais d'une autre manière que le 19e siècle, en fait.
Vas-y Diane, excuse-moi.
Est-ce que tu penses que c'est parce que aujourd'hui il y a davantage de moyens pour contrôler les naissances, ou alors est-ce que c'est aussi le rôle de mère, enfin le statut de mère qui a changé en fait entre le 18e et aujourd'hui?
Les deux.
Ouais.
Les deux. Je pense qu'effectivement il y a un autre accès, enfin il y a une d'autres, il y a des moyens de contrôler les naissances qui sont bien évidemment réels aujourd'hui, c'est clair. Mais effectivement, il y a une place. Le rôle de la mère a évolué dans notre société. On est sur le fantasme de la bonne mère et le poids de la maternité reste quelque chose d'hyper présent dans nos sociétés et avec des enjeux très très forts. Et là encore, dans le cadre de la bonne maternité, parce que je parlais des jeunes filles mineures non mariées, enfin non mariées, oui, c'est la norme maintenant, mais des jeunes filles mineures enceintes ou mères, le regard social est très dur sur elles. Et d'ailleurs, dans le cadre du vernissage de l'exposition, on avait eu une intervention d'une personne qui nous avait parlé d'une étude sociologique où des jeunes filles déviantes ou délinquantes parlaient de la maternité comme d'une forme de rédemption. Donc c'était vraiment très, très intéressant comme intervention. Mais ce qui a été dit dans un second temps, c'est que certes c'était une rédemption, mais une rédemption complètement fantasmée. Parce que la réalité de la maternité pour une jeune fille, pour une jeune mère célibataire aujourd'hui, reste hyper complexe. Et le regard social n'est pas du tout bienveillant, encore aujourd'hui. Ça aussi, c'est une grande question qui est abordée dans l'exposition. Une fille mère, au 19e siècle, c'était terrible. Ça, et la première réaction des visiteurs, c'est « mais aujourd'hui, c'est plus comme ça ». En fait, quand on creuse, bien sûr que si, ça reste très dur d'être une mère célibataire dans nos sociétés aujourd'hui.
Je vous propose qu'on... Vas-y.
Non, je voulais juste aussi faire une remarque, mais j'ai trouvé très intéressant les portraits autour de la maternité dans l'exposition. Et ce que je trouve aussi... pertinent, c'est qu'il y a plusieurs profils en fait. Justement, il n'y a pas que des mères abandonneuses ou infanticides, il y a aussi un des portraits de femmes qui choisissent de garder l'enfant. Et du coup, je trouve que ça fiche pas en fait aussi l'émancipation. Je veux dire, ça peut être émancipateur pour une femme de garder son enfant, comme ça peut être émancipateur d'avorter par exemple ou d'abandonner son enfant. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant dans l'exposition, de pas faire juste un seul portrait de mère. Voilà, remarque positive du coup sur l'expo.
Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. Je vous passe un live, j'espère que la qualité n'est pas trop mauvaise, mais je vous passe un live de Lagal qui s'appelle La gueule de l'emploi et qui est tiré de l'album éponyme de Lagal en 2012.
J'enrage, explose en fleur de rage.
Nous pays. On ne connaît plus, on ne salue plus. On est pris.
Alors on y est cette journée n'est pas des plus glorieuses. On dirait que certains ont oublié que je pouvais être ténueuse. Que lorsque j'ai faim et qu'on me laisse pourrir à mes heures creuses, je ratisse le terrain, j'en plonge le mode ultra chieuse. La paix et leurs institutions ont une des temps vers moi. Mon temps j'en ai donné pour faire vivre leur vie en mémoire. Y'a le pont écrit charbon. Et qui à force perdre la voix, semblerait que d'en parler, ne sert qu'à se cacher la voix. Qui sont dit pour me museler tout entier avant mon image. C'est de la peur être révoltée. Qui fait tâche dans le paysage, qui lutte trop, qui dérange. Sympa au final, dont la colère tout change. Ne leur ferait aucun mal que ces sales rats se détrompent. Et demain, gars en coup de chasse. Sourire câble génétique, ronde de nuit pour 2-3 traces. Depuis que je me suis ouvert les veines, sur les coins de leur bureau, leur fiche de paix, je me torche avec.
Leur contrebande zéro, ni de sa race. Ils coulent sous nos draps. Même si la première vue, on n'a pas la gueule de l'emploi. Ils sont fondés très peu pour que leur système ploie. Une étincelle pour que toute fin des sera lue comme un feu de bois. La fatigue n'aura pas raison de moi. L'histoire où je serai sorti, je vous conseille l'anonymat. Arrêtable, affamé de surcroît, les prédateurs avancent dans le noir, prêts à fondre sur leur croix.
Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, finirait sur la paille.
Je veux leur sang,
leur argent,
là où il
est du bon temps.
Un point de vue rapproché
pour observer leur chute.
Contre un flot d'or que je me réserve une mine de
diamant.
Un couteau inséré
pour faire tomber les lobes de pute.
En manque d'oxygène, dans le sous-sol je me traîne, je sais plus où regarder.
Car de toute part on me manège.
Prisonnière dans son costume, j'ai cassé ma plume. À cogiter sur leur paperasse ou dessus.
garçon,
histoire de tuer.
Je n'attends rien, pas de compassion, aucun geste de leur part. Sinon des plaques ou des amendes au registre de leur
étendard.
À part des clous affectés, me reste un rime en exutoire. Pour leur, ça permet pas de vivre en enfin, bon,
ce qui reste à voir, lique sa race. Gros sous l'ombre, mais si à première vue on n'a pas la gueule de l'emploi, ils sont formés très peu pour que leur système ploie. Une étincelle pour que tu se plaignes et s'allume comme un feu de bois.
Fatigue n'aura pas raison de moi.
De moi, et une fois vous serez sorti, je vous conseille l'anonymat. Intraitable, affamé de sucre et prédateur avant de moi, prêt à fondre sur leur poids.
Calculatrice parce que pas le choix, remplir le frigo.
Parfois,
contre un découvert de homme qui se un peu plus.
Chaque mois,
que veux-tu?
C'est le quotidien des crevards.
Les poursuites et l'ORP ne sont pas un jeu de hasard.
Justifié, chaque minute, chaque seconde.
Ce que t'as branlé de la journée,
dans la cible de leur fraude.
Accusé, attends, bien trop souvent, les frais de justice s'accumulent et finissent sans
son endettement.
La connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la parade.
Lique sa race, ils couleront sous nos bras. Mais si à première vue, on n'a pas la gueule de l'emploi. Ils sont fondés très peu pour que leur système ploie. Une étincelle pour que tout se fasse et se rallume comme un feu de bois.
Ma fatigue n'aura pas raison de moi.
De moi,
et les soirs où je serai sorti,
je vous conseille l'anonymat. Intraitable, affamé de surpoids.
Les prédateurs avant de moi,
prêts à fondre sur leur poids.
Ça fait lique sa race,
ils couleront sous nos bras.
Mais si à première vue,
on n'a pas la gueule de l'emploi. Ils sont fondés très peu pour que leur système ploie. Une étincelle pour que tout soit distrahi comme un feu de bois.
Dijon, Dijon.
On ne connaît plus, on ne salue plus.
J'enrage le courage en intraveineuse.
On est de retour, enfin vous êtes de retour, nous sommes tous de retour sur J'enrage, enfin sur RCV 99FM avec J'enrage. Il est 14h48, nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais nous avons encore quelques minutes devant nous pour discuter avec Hélène. Diane, je te laisse la parole.
Oui, alors moi je voulais revenir un peu sur cette question de la biologisation de la violence des femmes, parce que j'ai relevé une sorte de paradoxe en fait entre le fait que on considère les femmes de façon donc essentialiste comme naturellement douces, gentilles, etc. Et en même temps, et paradoxalement donc, on considère aussi que les hormones féminines, et justement que les femmes, enfin les filles, à partir de la puberté, seraient violentes, comme si aussi les hormones féminines les poussaient à la violence. Donc je ne sais pas si Hélène, c'est quelque chose que tu peux un peu développer.
Ben, moi, ça me fait, du coup, ça me renvoie directement à... Bon, quand on parle de la violence féminine, effectivement, qui serait due à une nature d'un seul coup de la femme qui se réveillerait au moment de la puberté, ça nous renvoie à, effectivement, l'entrée en sexualité, la sexualité dangereuse pour la femme et qui peut transformer la femme. Donc, il faut que la sexualité de la jeune fille et de la femme soit hyper contrôlée. Donc, on est sur l'hyper-contrôle de la sexualité. Et sur le discours biologisant, moi, ça me fait penser aux théories de l'école d'anthropologie criminelle italienne, donc notamment avec Lombroso, qui tenait tout un discours sur une violence qui serait presque génétique, avec l'idée d'hommes et de femmes qui seraient qui auraient une violence par naissance. Donc il y aurait l'homme qui serait le criminel né, donc le meurtrier né, et la femme qui serait la prostituée née. Et ce serait repérable avec des études médicales, parce qu'il y aurait des stigmates biologiques qui révéleraient, anthropométriques qui révéleraient c'est le fait que certaines femmes soient des prostituées nées et certains hommes des criminels nés. Et ce discours-là, qui a inondé toute la fin du 19e, est encore très présent au 20e siècle, et on n'en est pas tout à fait sorti quand on entend certains discours sur des femmes qui seraient vicieuses par nature ou ce genre de choses.
Ouais. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que la femme, elle n'est jamais épargnée, en fait. Soit elle est catégorisée en tant que douce et elle doit se conformer en fait à cette injonction biologique, soit elle est catégorisée comme violente hormonalement. Et du coup, elle est aussi condamnée pour ça, quoi. Je trouve que c'est dur.
Violente
quoi.
Hormonalement et violente sexuellement. C'est vraiment les infractions, dans la catégorie de la délinquance et de la violence féminine, il y a vraiment, et masculine, il y a vraiment la violence classique et la violence liée à la sexualité. Et ce sont deux traitements différenciés en termes de genre qui sont faits pour l'une et l'autre des catégories d'infractions.
Et c'est pourquoi aussi les institutions de placement sont dans une démarche de contrôle de la sexualité des femmes qui est dite déviante.
Oui, et d'où le fait que peut-être justement, enfin en tout cas, mais là encore lié à des représentations, parce qu'on est sur quand on creuse, on se rend compte qu'on est quand même beaucoup autour de fantasmes liés à ce que sont les hommes, ce que sont les femmes, ce que sont les femmes violentes, ce qu'est la sexualité des hommes et ce qu'est la sexualité des femmes. Dans l'exposition, on a un stand sur la sexualité. Et c'est un stand qui se trouve en plus placé dans l'exposition juste à côté du thème de la frivolité, donc de l'apparence. Et du coup, ça nous amène parfois à parler du discours qui est porté sur la manière dont les femmes doivent s'habiller dans l'espace public, avec derrière le risque, parce que le danger, ça serait qu'elles deviennent des espèces de proies pour des prédateurs sexuels. On est vraiment là-dedans. Et ce discours-là, il est encore quand même très actuel et tenu par les femmes elles-mêmes. Quand je questionne les visiteurs sur la manière dont doit s'habiller une femme, très vite revient l'idée qu'il ne faut pas être trop provocante. Parce que trop provocante, c'est trop sexuel et du coup, on se met en danger. Après, je viens confronter avec les statistiques, par exemple, sur le viol, hein, le fameux lien entre la jupe et le viol. Bon, voilà. Donc on est vraiment sur des fantasmes, sur des représentations, sur l'idée derrière du contrôle de la sexualité des femmes. Et je voudrais juste, pour terminer sur cette idée de contrôle, préciser aussi autre chose. Pendant très longtemps, on a eu tout un discours sur la traite des blanches. Au 19e, milieu 19e, début 20e et jusque dans les années 50-60. L'idée qu'il fallait faire attention quand on était une jeune fille, lorsqu'on se promenait dans l'espace public, parce que de méchants trafiquants risquaient de vous séduire, par des discours enjôleurs, puis de vous emmener en Argentine pour vous forcer à la prostitution dans des bordels. Et cette traite des blanches, cette traite devenue après institutionnellement la traite des femmes et des enfants, a donné lieu à la mise en place de multiples institutions au niveau du gouvernement, au niveau local, etc. Et quand on creuse dans les archives, en fait, on se rend compte que des affaires de traite, il y en a, mais quelques-unes, très peu. Alors que derrière, il y a un discours médiatique et politique énorme autour de la peur, en fait, aussi. Un discours de la peur et de la peur et un discours hyper anxiogène pour les femmes, pour les contrôler et les maintenir dans l'espace privé, et puis pour contrôler effectivement aussi leur sexualité. Parce que se faire séduire par un homme, derrière, il y a risque de prostitution en Argentine. Dans bordel en Argentine. Ouais.
J'avais juste une remarque, après on avait parlé aussi un petit peu avant ensemble Hélène, mais c'est vrai qu'en plus sur le vêtement, je trouve qu'aujourd'hui la problématique elle est aussi complexifiée parce que pareil, je trouve que les femmes elles prennent toujours cher parce que qu'elles s'habillent trop court c'est un appel au viol et qu'elles s'habillent, il y a eu ce fameux épisode de la jupe trop longue qui renvoie à l'islamisme et machin, et donc les femmes en gros elles n'ont pas le droit de se découvrir ni de se couvrir en fait, parce que dans tous les cas... on va les condamner.
Et puis, les femmes réelles, enfin dans l'espace public, parce que quand on regarde les films, quand on regarde les pubs, les séries télé, elles sont souvent hyper sexualisées, parce que ça fait vendre et parce que ça intéresse le spectateur. Ce double discours porté sur les femmes, il rend presque schizophrène parce que on peut pas s'identifier aux personnages médiatiques parce que elles sont hyper sexualisées et c'est un idéal à atteindre mais toujours dans des codes qui font que il faut quand même qu'on se protège parce qu'il y a des méchants garçons qui nous veulent pas du bien dehors Et enfin, c'est ce double discours qui est qui a un moment, on ne sait plus où donner de la tête et comment il faut qu'on soit pour correspondre à la norme sociale. Enfin, on ne veut pas forcément correspondre à la norme sociale, mais si on s'en tient à ça, c'est un double discours. Et c'est ce qu'on disait aussi le mois dernier sur les femmes violentes. Les femmes violentes représentées dans les films, c'est toujours des girl power qui s'émancipent, qui cassent la gueule des méchants et qui sont hyper powerful et qui s'émancipent par la violence et tout le monde kiffe. Mais il faut que ça reste dans les films, quoi. Il faut que ça reste un fantasme.
Il faut qu'elle reste sexy aussi.
Bah oui, surtout. Surtout.
Bah, ouais. Oui, oui. Et puis là encore, sur les idées reçues, hein, toujours sur le thème de la frivolité, mais c'est un thème qui est vraiment intéressant, surtout à voir les réactions. Mais quand on demande donc, est-ce que c'est la même chose de s'habiller pour une fille et pour un garçon, la première réponse c'est bah oui, tout le monde a envie d'être bien habillé. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand on creuse, on se rend compte que pas du tout. Enfin, que on est inondé d'injonctions contradictoires. S'habiller pour correspondre à la norme sociale dans l'espace public, c'est effectivement un casse-tête qu'on a complètement intériorisé, mais toutes, hein, parce que finalement, on les respecte aussi, hein, ces fameux codes. On critique effectivement ceux qui relèvent d'un autre contexte, d'une autre époque, etc., sans se rendre compte que nous-mêmes, on est complètement formatés par les codes sociaux et les normes qui nous impose de nous habiller de telle ou telle manière. Et il y a un véritable enjeu social autour de la tenue vestimentaire, enfin de la tenue, c'est une redondance, mais de la tenue de la femme.
Peut-être en deux minutes, pour conclure, revenir, on en a parlé dans la présentation du programme, et je trouve que c'est un point qui peut être intéressant en conclusion, sur le fait que le traitement institutionnel de la violence des femmes peut véhiculer aussi une certaine forme de violence plutôt symbolique sur les femmes ou les filles en question. Alors, je n'ai pas formulé de question, là, je ne sais pas si c'est hyper clair. Soit tu arrives à t'en saisir comme ça, soit quelqu'un reformule. Mais
non, ça me paraît quand même clair.
Oui.
Je sais non, pas, moi, peut-être sinon donner un exemple. Dans l'exposition, par exemple, c'est vrai qu'il y a ce que tu disais sur le côté fête foraine, il y a un chamboule tout où en fait on peut tirer sur des représentants de l'ordre, donc il y a un policier, un juge et peut-être une assistante sociale, je sais plus. Mais voilà, j'imagine qu'il y a aussi une réflexion dans l'exposition sur la violence que peut représenter le traitement institutionnel et juridique de la violence des femmes.
Oui, enfin voilà, c'est toute la question aussi de la violence entre guillemets légitime qui est légitime jusqu'à ce qu'elle jusqu'à ce que l'injustice qu'elle représente saute au visage des intéressés. Et ça nous renvoie en fait moi ça me renvoie du coup là par lien de causalité à la question de la rébellion. La femme rebelle, c'est celle qui donc refuse s'insurge contre l'autorité. Et la femme rebelle, en fait, qui est perçue et vue comme rebelle, ne s'identifie pas elle-même comme rebelle. Parce que le terme rebelle, pour l'intéressé, il est connoté négativement. C'est étrange, mais je vais prendre un exemple concret. Véronique Blanchard m'a raconté qu'elle avait eu une visite avec des personnes qui étaient venues par curiosité, dont une femme qui avait été prise en charge par les bons pasteurs. Elle racontait qu'elle avait vécu des choses absolument horribles dans sa prise en charge par les bons pasteurs, et que du coup elle s'insurgeait et du coup elle résistait face à la violence que lui infligeaient les religieuses. Et à un moment, Véronique la regarde éperdue d'admiration et lui dit vous êtes une rebelle. Et tout de suite la personne a dit mais pas du tout, je suis pas du tout une rebelle. Enfin voilà, la rébellion pour les personnes intéressées, ce n'est pas une revendication politique assumée, c'est un refus de l'injustice mais intérieur, profond, avec un sentiment justement de
de rester une bonne fille. On reste une bonne fille. On refuse du coup de passer dans le... Donc ça, c'est hyper... C'est vraiment... ça interpelle aussi la manière dont on est perçu, dont on se perçoit, dont on réagit face aux violences symboliques qui nous sont... qui sont perpétrées par la... violences symboliques et réelles qui sont perpétrées par l'institution.
Alors, nous sommes en retard. Je conclue en 30 secondes pour laisser l'antenne à RPL et aux entonnoirs qui suivent juste après nous. Merci beaucoup, Hélène, d'être venue aujourd'hui pour discuter avec nous. On se retrouve le 1er mai pour une émission surprise qui est encore en discussion avec l'ensemble du collectif, donc on ne vous dira rien. Et on vous laisse sur une chanson de The Do, Despair, Hangover and Ecstasy, tirée de Shake, Shook, Shaken, l'album sorti en 2014. Ciao, ciao.
Salut.
We're breaking promises with all-